Radio Django à écouter sur radio.django.fr.
18h32, on est dans la Rose des Vents et nous ferons un petit détour par le Brésil pour parler de palmarès. Daniel, un clin d'œil aux Jeux Olympiques de Rio.
Pas vraiment. Pour vous situer, nous parlerons du Brésil colonial, de résistance et de palmarès. Comme vous, j'ignorais l'existence de ce lieu et de son histoire que j'ai découvert lors d'une conférence proposée dans le cadre du festival Congo Culture en septembre dernier. Palmarès s'est formé au début du XVIIe siècle dans le nord-est du Brésil. C'est un état créé par des esclaves fugitifs qui ont résisté pendant presque un siècle aux assauts des Portugais et des Néerlandais. Symbole de fierté, cette confédération de villages d'anciens esclaves appelés Quilombo, un mot d'origine africaine, survit dans les mémoires collectives des Afro-Brésiliens et questionne de nombreux historiens qui s'interrogent sur les mouvements de résistance des esclaves.
Et puis pour en parler, Bénédicte Kumbi-Djoko, historienne et angliciste. Elle a fait ses études à l'Université de Genève, membre de Don't Be Blind This Time, un mouvement citoyen en faveur de la paix en RDC, la République démocratique du Congo. Le respect des droits humains et la liberté sont des valeurs qui lui tiennent à cœur. Conférencière, elle participe à différents événements pour dénoncer différentes formes d'oppression. Elle participe comme maître de conférence au festival Congo Culture à Lausanne et fait découvrir au public l'histoire de Quilombo, du Quilombo de Palmarès. En octobre, Daniel l'a rencontrée pour une interview. Elle lui demande dans un premier temps de nous situer quant au lien lui existait au XVIIe siècle entre le Brésil et le Congo.
Le lien, d'abord, bon, c'était cette invitation par rapport à Congo Culture qui interroge, au fond, les rapports, les liens qu'il y a entre ces diasporas congolaises qui sont parties donc, à partir du XVIe siècle dans le monde entier, parce que esclaves. Et donc, il s'agissait d'essayer de regarder ce qu'il en restait, justement, de ces diasporas. Quels liens elles avaient encore avec le Congo? Comment elles ont transporté le Congo ailleurs? Donc, du coup, c'était parler de Zumbi, de palmarès semblait tout indiqué, puisqu'on sait qu'il y a quand même un grand nombre d'esclaves qui sont partis donc, de cette Afrique centrale vers les Amériques. Donc pour le Brésil, ça représente quand même plus de 5 millions d'individus.
Qu'est-ce qui distingue finalement le commerce des esclaves des Brésiliens et des Portugais de celui des autres puissances coloniales ?
Alors, il est communément admis de dire que les grandes puissances coloniales esclavagistes telles que les Pays-Bas, l'Angleterre, la France, le Danemark et voire la Suède ont eu de grandes compagnies maritimes qui ont pratiqué ce qu'on appelle donc le commerce triangulaire. On apprend à l'école que ces bateaux partaient de l'Europe vers l'Afrique chargés de certaines marchandises comme des armes, de la verroterie qu'ils échangeaient contre des esclaves qu'ils embarquaient donc depuis l'Afrique et traversaient l'Atlantique pour aller vers l'Amérique et ensuite de nouveau l'Europe avec des produits tropicaux tels le sucre, le cacao ou le coton. Les Portugais, eux, parce qu'ils n'ont pas eu autant de succès dans la construction de ces grandes compagnies maritimes, vont au fond se borner à faire la traversée donc Atlantique, partir vers l'Afrique, ramener des esclaves vers les Amériques qu'elles vont utiliser dans les plantations sucrières qu'elles ont et que la Hollande, par contre, elle va prendre et ramener vers l'Europe. Mais là, j'aimerais quand même dire une chose par rapport à ce commerce triangulaire, parce que, comme j'ai dit, c'est admis dans les écoles qu'il y a ce passage qui est fait entre l'Europe et l'Afrique où il y aurait un commerce. Ceci, c'est sous la plume, je dirais, d'historiens européens en particulier. Mais quand on lit aussi d'autres historiens africains qui se sont penchés sur la question, des gens comme Bueba Bong, ce que l'on voit, c'est que il n'y avait pas de traités commerciaux entre l'Europe et l'Afrique pour pouvoir donner des esclaves. Les Portugais, par exemple, vont libérer des personnages qu'on va appeler les lançados, qui sont des criminels, et qui vont lancer littéralement sur les terres africaines pour aller capturer des individus dans leur sommeil. Donc là, je pense qu'il faut quand même nuancer un petit peu par rapport à cet aspect-là.
Dans quelle mesure est-ce que certains esclaves ont pu être acteurs de leur destin ?
Je pense que dès le moment où les esclaves prennent la décision de quitter la plantation, de fuir la plantation, elles sont dans ce mouvement de libération. Elles deviennent maîtres, ils deviennent maîtres de leur destin. Quand ils créent les quilombos, c'est ce qu'ils affirment, c'est qu'ils sont dans la récupération de leur propre existence. Et le quilombo, dans ce sens, c'est vrai que c'est quand même un symbole, parce que déjà, il porte un nom qui vient de l'Afrique. C'est donc dans la langue Kibundu, c'est une langue qui est parlée dans la région de Luanda en Angola, qui veut dire union d'abord. Et puis, on sait aussi que certains jeunes, lorsqu'ils étaient préparés à des actions militaires, se retiraient dans des quilombos, c'est-à-dire des espaces clos, où ils allaient être initiés. Donc c'est en faisant déjà référence par ce nom à une appartenance culturelle, à un espace, il y a quand même l'affirmation de dire justement qu'ils sont libres.
Est-il juste de dire que les quilombos étaient finalement des lieux de résistance ?
Ce sont des lieux de résistance, effectivement, parce que ils vont pouvoir, dans cet espace, pouvoir s'exprimer dans leur langue, adapter leur langue à l'environnement dans lequel ils sont, et puis prendre des décisions par rapport à leur propre destinée, ce qui est une résistance face donc à l'ordre colonial qui leur impose une vision du monde, une façon d'agir.
L'ordre colonial, ces personnes qui résistaient étaient appelées des marrons. Pour quelle raison ? Et pourquoi est-ce qu'ils étaient considérés comme des criminels ?
Alors, le mot marron est d'origine en fait espagnole. On parle de cimarron en espagnol, et ça qualifiait des individus qui étaient des fugitifs et des rebelles contre l'autorité espagnole dans les colonies espagnoles du Nouveau Monde. Mais le nom, il désigne aussi une peuplade cimarron qui se trouvait donc sur l'île de Cuba entre Nombre de Dios et Panama, et qui s'est révoltée contre l'autorité espagnole qui les avait réduits en esclavage. On nous dit aussi qu'en Haïti, dans la région de la Jérémie, on parlait de marrono, et qui était en fait apparenté à un cochon sauvage qui vivait dans les bois. Exactement. Et encore, en français, on le traduisait, donc le mot cimarron était aussi traduit par singe. Donc on voit que le mot porte en effet une signification très très négative, très très péjorative, et ces individus étaient considérés comme des criminels parce qu'ils prenaient les armes contre donc l'autorité coloniale, et qu'ils pillaient aussi des plantations. Donc ils devaient être combattus par rapport à ça, parce qu'ils mettaient au fond en péril l'ordre colonial esclavagiste. Et il faut aussi ajouter que la révolution haïtienne, avec Toussaint Louverture, est dans les têtes. Et on n'a pas envie de voir se reproduire ce genre de choses dans les autres espaces coloniaux. Donc on va théoriser de manière légale sur ces individus que sont les marrons pour pouvoir les criminaliser.
Et dans quel contexte est né le quilombo de Palmarès ?
Alors, le quilombo de Palmarès, donc on est au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, 1604. C'est un quilombo qui va apparaître à un moment où le Portugal et la Hollande seront en conflit, parce que la Hollande voudra, au fond, s'emparer des terres brésiliennes, parce que à ce moment-là, il y a un commerce avec le sucre qui est très lucratif. Et donc au cours de ces tensions entre ces deux puissances coloniales, va apparaître le Quilombo de Palmarès, qui est en fait une confédération de plusieurs, disons, villages, ou en tout cas réunions d'individus qui se sont échappés de la plantation. Et c'est un Quilombo qui est important parce qu'il va durer quand même pratiquement un siècle, hein, jusqu'à la mort, à la capture de Zumbi en 1695, dont la tête d'ailleurs sera tranchée et sera exposée sur une des places importantes de Recife.
Mais qui est Zumbi ?
Zumbi, c'est donc cet esclave, un nègre marron, qui s'est échappé jeune de la plantation, qui est le neveu de Ganga Zumba, qui est lui-même d'abord le chef de ce quilombo. C'est lui qui a créé le quilombo de Palmarès, donc il va diriger ce quilombo à la mort de son oncle. Parce qu'on dit qu'il a été en fait tué, donc ce Ganga Zumba, parce qu'il avait signé un traité au fond avec les Portugais et qui n'était pas acceptable pour certains membres du Quilombo. Donc du coup, il va être assassiné et Zumbi va prendre la tête donc, de ce Quilombo pendant donc, toutes ces années, en sachant qu'il sera très très difficile pour les Portugais d'en venir à bout. On va avoir plusieurs expéditions contre ce Quilombo. Mais ces fugitifs, ces rebelles vont développer des techniques de combat, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans la capoeira aussi, pour résister.
Qu'est-ce qui atteste au plan historique que Zumbi et son oncle Ganga Zumba étaient originaires de l'ancien empire Congo ?
Je crois qu'il faut vraiment essayer de réfléchir donc le lien entre le royaume Congo et le Brésil et ce Quilombo de Palmarès en particulier autour des noms que portent ces deux individus. Quand on parle de Ganga Zumba, Ganga, c'est le médecin, c'est l'initié en Kikongo. Un initié, c'est un personnage important dans ces communautés Congo parce que on comprend bien le mot initié, c'est qu'il a reçu une formation, une manière de voir la nature, de la comprendre, pas seulement intellectuellement, mais de la vivre, de la pénétrer. Donc à partir de là, il va être cet initié, ce qui prend vraiment tout son sens dans le contexte justement de ce Quilombo de Palmarès qui se trouve d'ailleurs dans une palmeraie, connaître la nature, la pénétrer. Donc cet initié-là, le Nganga, il est important, c'est aussi le médecin. Et quand on parle de Zumba, c'est une plante que l'on donne aux femmes lorsqu'elles ont de la peine à procréer et qui leur permet, de pouvoir mettre au monde. Et de nouveau, là, dans ce contexte, ça prend symboliquement une valeur assez particulière. Et quand on prend Zumbi, c'est peut-être une déformation de Nzumbu, qui est en fait la forêt. Et là, on aurait donc ce spécial, c'est prendre le maquis, ce spécialiste de la forêt.
Et ça, c'est une interprétation basée donc sur l'exploration de la langue Kikongo.
Oui, et puis que l'on doit beaucoup à Nsaku Kibembe, dont j'aimerais quand même saluer et effectivement l'apport dans cette réflexion que je menais autour de ce Quilombo de Palmarès.
Nsaku Kibembe, dont on parlait le 11 octobre à Django. Qu'est-ce qui fait de Zumbi une légende dans l'histoire de Palmarès, mais aussi dans l'histoire des afro-descendants?
Zumbi est un personnage, il faut le dire, qui a réapparu dans le paysage brésilien au cours des années 1970. Son souvenir avant était totalement occulté. Mais au moment où le Brésil, effectivement, rencontre des difficultés dans le sens où il est sous une dictature...
C'était à quelle période? Dans les années 85?
85, mais de 1970, on voit déjà apparaître donc, Zumbi dans les chansons, au carnaval.
Mais par contre, pas dans les livres d'histoire.
Pas dans les livres d'histoire. Et donc ce personnage est important parce qu'il va représenter justement cette figure de résistance pour les Noirs en particulier. Puisqu'ils ont à faire face quand même à un racisme d'État qui est là au Brésil, même si on parle de la nation métissée brésilienne, mais qui cache quand même des antagonismes très très forts au niveau racial. Donc Zumbi va représenter au fond cette mémoire noire. On va le 20 novembre fêter le jour de la conscience noire avec ce personnage Zumbi. Mais Zumbi va pas seulement être ce personnage important pour les communautés noires, il va aussi être pour les communautés blanches brésiliennes comme figure de résistance à l'oppression. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait partie du panthéon, mémoriel brésilien parce qu'il représente donc cette figure de résistance.
Merci Bénédicte Kumbi-Joko, au micro de Daniel. Paradoxalement, quand on parle d'esclavage, on pense au sud des États-Unis. Or, dans la traite des Noirs, seuls 4% des esclaves ont été acheminés en Amérique du Nord, contre 40% au Brésil. D'après l'écrivain brésilien Edison Carneiro, Palmarès, c'était un morceau d'Afrique transplanté nord-est du Brésil. En mémoire de Zumbi et de son combat, le Brésil célèbre chaque année le 20 novembre la journée de la conscience noire, une journée pour se souvenir et rendre hommage aux Africains déportés vers le Brésil qui ont lutté et résisté pour recouvrir leur liberté.
Oh, freedom! Oh, freedom! Oh, freedom! Over me and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Freedom, the Golden Gospel Singer sur Radio Django.